Voilà, donc avant de continuer notre série sur l'exploration de la Bible, nous allons faire une petite mise au point sur Pâques, parce qu'il y a des questionnements sur le jour de Pâques. Bon, certains ont peut-être vu que il n'y a pas une organisation spéciale que nous faisons au jour que tout le monde proclame le jour de Pâques. Donc nous voulons faire un petit résumé de ce que dit la Bible de tout ça, afin que chacun sache et pose des questions aussi. Donc nous commençons par dire qu'on parle de Pâques, premièrement, c'est Exode 12. Dans Exode 12, le Seigneur donne l'instruction. Donc le mot Pâques vient de là, dans Exode 12. Exode 12, verset 11. Mais nous lisons à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose de matin, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà, donc c'est ça. C'est à partir de là que Dieu définit la Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Et en hébreu, on appelle ça Pessah. Donc ça veut dire passer par-dessus. Donc parce que Dieu leur avait recommandé de faire ce travail-là, de mettre le sang donc sur les linteaux de porte, de sorte que, voilà, donc verset 12 l'explique, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servirait de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc voilà ce que Dieu donc leur dit. Donc quand ils vont tuer l'agneau, ils devront mettre le sang sur les maisons, de sorte que quand Dieu va envoyer la catastrophe, donc un ange destructeur, faire périr les premiers-nés égyptiens. Quand Dieu va envoyer cette catastrophe, ben, quand cette catastrophe va arriver sur les enfants d'Israël, cet ange va voir le sang et il ne pourra rien faire sur les enfants d'Israël parce que l'agneau aurait pris donc le châtiment qui était réservé à tout humain dans cet endroit-là, aux premiers-nés notamment. Donc c'est pourquoi on dit Pâques, qui veut dire passer par-dessus. Donc l'ange de la mort passera par-dessus les maisons enfants d'Israël. Donc, c'est d'où le mot Pâque. Et ça symbolise donc le salut par le sang. Donc, le sang de l'agneau qui coule veut dire que l'agneau a subi le jugement à la place des humains qui sont dans la maison. Donc, ce sang était mis sur le linteau des portes. Donc, l'ange de la mort ne pouvait plus entrer parce qu'il y avait le sang. Il devait passer par-dessus. Et donc, la mort allait frapper les premiers-nés égyptiens et elle n'allait pas frapper les enfants d'Israël. Donc, c'est le salut par le sang, mais c'est aussi la délivrance des forces des ténèbres. Vous vous souvenez, c'est écrit dans Apocalypse 12, 11, c'est écrit « Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau ». Pourquoi ? Parce que le peuple était esclave en Égypte et souffrait terriblement, était sous le joug de Pharaon. Et ce dernier acte de Dieu, d'éliminer le premier-né égyptien et de faire que l'ange de la mort ne touche pas au premier-né juif, c'est cet acte-là qui fait que Pharaon consent à laisser le peuple d'Israël partir. Donc c'est cet acte-là qui est leur délivrance. Donc c'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 12, 11, « Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. » Donc comme eux, ils avaient vaincu aussi à cause du sang de l'agneau à ce moment-là, parce que l'agneau les a préservés, eux, et a fait voir clairement que le pays d'Égypte, le Dieu d'Israël était le véritable Dieu et que c'est lui qui frappait les Égyptiens afin qu'on laisse le peuple de Dieu s'en aller sortir de l'esclavage. Donc voilà la première fois où le Seigneur parle de Pâques et il dit qu'au verset 14, « Vous conserverez le souvenir de ce jour » et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc une loi définitive, une loi perpétuelle pour vos descendants. Et vous célébrerez ça. Donc c'est le Seigneur lui-même qui donne cette instruction qu'on célèbre ça. Et dans Lévitique, au chapitre 23, il y a d'autres fêtes qui sont rajoutées, expliquées. Je crois qu'on avait fait tout un séminaire là-dessus sur les fêtes de l'Éternel, dont le Seigneur avait donné sept fêtes à célébrer pendant toute l'année pour rappeler la gloire de Dieu, rappeler les victoires de Dieu, rappeler entre autres la Pâque. Donc parmi ces fêtes, donc la plus importante, c'était la Pâque. Donc c'était cette fête-là qui était la plus importante, cette fête de délivrance qui rappelait la libération, la sortie d'Égypte des enfants d'Israël. Donc, maintenant, quand Jésus vient, le prophète Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, dans Jean 1, 29, nous allons lire Jean 1, 29. Jean 1, 29. C'est écrit ceci. Le lendemain, c'est Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc Jean-Baptiste nous explique clairement que l'agneau qu'ils avaient l'habitude d'immoler le jour de Pâques, mais le véritable était venu, c'était Jésus lui-même. Donc l'agneau d'avant, c'était en attendant. Donc quand il voit Jésus venir, il dit, voici le véritable agneau. Donc désormais, Jésus était destiné à être maintenant l'agneau de la Pâque. C'est ainsi que, il est clair, Jean-Baptiste, il dit, pour ôter le péché. Donc l'agneau d'avant, ôter le péché dans le sens où c'est lui qui subissait la condamnation, il était tué à la place des enfants juifs. Et donc le véritable agneau, c'est Jésus qui arrive et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ainsi que Jésus est mort, donc, lors d'une fête de Pâques. Donc, pour confirmer vraiment que c'est lui l'agneau, il est mort en même temps que l'agneau officiel. Donc, c'est là que Jésus a été crucifié au moment où c'était la fête de Pâques. Donc ça explique le fait que la Pâque a été accomplie par Jésus, véritablement. Donc c'est lui, notre Pâque. Et c'est ce que notre frère Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Au verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, comme le jour de la Pâque, parce qu'on n'a pas lu tout le texte dans l'Ancien Testament, Dieu avait aussi ordonné à ce que les enfants d'Israël mangent des pains sans levain. Parce que pendant qu'ils faisaient la Pâque, dans Exode 12, c'était aussi le temps de quitter l'Égypte. Donc il fallait qu'ils aient les reins sains. Donc qu'ils soient, à notre époque, on va dire, il fallait qu'ils soient habillés pour pouvoir partir avec les souliers aux pieds, pour être prêts à partir. Et c'est pourquoi ils avaient fait le pain sans levain, parce qu'il n'y avait pas le temps d'attendre que la pâte lève, donc on fait le pain sans levain. Mais en réalité, il y avait aussi l'idée de pureté, puisque le levain, c'est une sorte de microbe, donc il fallait que le pain soit pur. Et donc, ce qui fait que le jour de la Pâque, on mangeait, avant la Pâque, il y avait la fête des pains sans levain. Donc, c'est deux fêtes qui étaient voisines, la fête des pains sans levain et la fête de Pâques. Donc, ça se faisait en même temps. Et donc, c'est pourquoi Paul dit, faites disparaître le vieux levain. Il dit, mais souvenez-vous, donc la fête de Pâques, c'est Dieu n'a pas voulu qu'on mette du levain dans le pain. C'est dans le sens qu'il ne veut pas du péché. Et il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Donc Paul veut dire que la pâte telle qu'elle a été fêtée, le pain sans levain, c'est une vie nouvelle avec Jésus, une vie sans le mal. Donc sans l'homme ancien, le vieux levain, l'homme ancien, l'homme qu'on était avant, qui marchait selon ses propres désirs, selon sa propre logique. Cet homme-là, c'est le vieux levain avec tout son péché. Maintenant, c'est le pain sans levain qu'il faut une vie nouvelle en Christ. Et il dit donc, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Il dit, normalement, vous devez être comme Jésus, pain sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, Paul dit clairement, c'est Christ qui est notre Pâque. Donc, avant la Pâque, comme on l'a dit, c'était un agneau. Donc, on tuait donc, pour une famille, pour un certain nombre de personnes. Et là, maintenant, pour nous, les enfants les chrétiens, pour nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, c'est Christ qui est notre Pâque. Parce que Christ a pris la place de l'agneau. C'est pourquoi Jean l'a appelé, voici l'agneau de Dieu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est Christ qui est notre Pâque, dont nous n'avons pas besoin de faire encore des sacrifices d'agneau. C'est Jésus qui est notre Pâque. Maintenant, Paul dit au verset 8, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Donc Paul dit, « Christ est notre Pâque, nous devons célébrer cela. » Il ne parle pas d'un jour spécial. Il dit que donc chaque jour, nous devons célébrer en quelque sorte Christ. Donc nous devons célébrer cette Pâque-là avec du pain sans levain, donc avec une nature nouvelle, pas avec le même esprit d'autrefois. Donc c'est là, c'est que voilà, la Bible nous décrit l'évolution des choses. Donc Exode 12, libération d'Égypte, puis jusqu'à arriver à Jésus, qui est sacrifié pour le pardon de nos péchés, de sorte que le diable n'a plus aucun droit sur nous, parce que Jésus a fait couler son sang pour nous. Donc on est libéré de l'esclavage du diable et on est pardonné de nos péchés. Donc l'ange de la mort ne peut rien contre nous. Donc notre Pâque, c'est Jésus lui-même qui s'est donné à la croix. Voilà le sens de ce que du mot Pâque. Donc l'apôtre Paul dit, maintenant célébrons cette Pâque-là avec une nouvelle nature. Glorifions le Seigneur pour cela. Maintenant, donc, nous arrivons à la question, mais donc, faut-il fêter ou pas? Donc, nous répondons en lisant Romains 14. Romains 14. Il est écrit dans Romains 14. À partir du verset 5, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur, qu'il mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu, celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Voilà. Donc, l'apôtre il dit clairement que chacun fasse selon sa propre conviction. Celui qui veut distinguer un jour, faire d'un jour un jour spécial de fête, il est libre tant qu'il le fait pour le Seigneur. Celui qui ne le fait pas, tant qu'il ne le fait pas pour le Seigneur, il est libre. Donc, chacun fasse les choses selon la conviction de son cœur. Donc, voilà. Et dans Colossiens 2 aussi, il est question des jours. Bon, ce n'est pas le seul passage, mais on ne va pas tout lire. Colossiens chapitre 2. Verset 16, c'est écrit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Donc l'apôtre dit que personne ne vous juge pour ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire toutes les fêtes qui ont été données avant, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est Jésus. Ce qui fait que on ne peut pas parler de ces fêtes-là sans parler de Jésus lui-même. Tu ne peux pas te joindre, enfin, vivre une fête de l'Ancien Testament, même si c'est une instruction du Seigneur, de Dieu. Tu ne peux pas vivre ces fêtes-là sans que tu y inclues Jésus dans ces fêtes, sans que tu vois Jésus dans ces fêtes-là. Jésus lui-même dit dans Jean 5 que les Écritures parlent de lui. Donc, tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, ça parlait de Jésus. Donc, il faut discerner Jésus dans toutes ces fêtes-là et les fêter dans cet esprit-là. Si on veut les fêter selon la liberté de l'Esprit. Donc, l'Esprit Saint, Dieu nous laisse libres, selon notre conviction, de fêter, de rendre ces jours-là, faire de ce jour de Pâques un jour spécial ou pas. Voilà. Donc, ou bien de faire des sabbats, des jours spéciaux. Ça, c'est chacun est libre selon la conviction. Le Seigneur n'a pas fixé de jour pour célébrer. Quand l'apôtre Paul dit « on célèbre Christ notre Pâques », c'est tout le temps, puisqu'on a Jésus tout le temps, on peut le célébrer tout le temps. Il est notre Pâques. Voilà. Donc là, il dit clairement que personne ne nous juge par rapport à cela. Donc on n'a pas à juger quelqu'un qui... fête la Pâque et on n'a pas à juger non plus quelqu'un qui ne la fête pas. Après, il y a certaines remarques qu'on peut faire en fonction. Si quelqu'un, pour lui fêter la Pâque, c'est des œufs au chocolat et un lapin en chocolat, on dira ben non, ça c'est pas la Pâque. La Pâque c'était l'agneau de Dieu, c'est autrefois et puis c'est Jésus qui est devenu cet agneau. Donc tu dois célébrer Jésus. Ce n'est pas célébrer du chocolat. Voilà, donc c'est cela. Donc on peut émettre certains avis de ce genre-là, mais que quelqu'un se rappelle de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, spécialement dans ces dates-là, il est libre de le faire. Et quelqu'un qui ne juge pas d'en faire un jour spécial, il est aussi libre de faire cela par rapport à cette fête de Pâques qui est une fête de l'Ancien Testament qui a été actualisée par Paul et les autres, les apôtres, en considérant que nous devons la fêter tous les jours puisque Christ est avec nous tout le temps. Donc on doit célébrer cette fête-là avec la nouvelle nature que Christ nous confère. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus, tout en concluant en disant que un autre problème qui peut venir, c'est la question des dates. La date qui est célébrée mondialement comme date de la fête de Pâques, c'est une date qui est imposée, qui a été imposée par des organisations humaines. Ce n'est pas la date exacte, parce que normalement, la fête, donc la Pâque de Jésus, quand Jésus est livré comme un agneau, ça coïncidait avec la Pâque des Juifs. Donc, c'était le jour de Pâque des Juifs. Et lui, il se livre ce jour-là. Donc, c'était la même date. Mais aujourd'hui, nous avons une date que, quand vous entendez qu'on est dans le week-end de Pâques, c'est une date qui commence de vendredi à dimanche, en appelant ça vendredi saint, samedi, ainsi de suite. Et ce n'est pas la vraie date. Ça, c'est encore un autre débat, parce que Jésus n'est pas mort vendredi. Il est mort mercredi soir, normalement. Parce que Jésus, dans Matthieu 12, a dit « Je resterai 3 jours, 3 nuits, dans le ventre de la terre. » Donc, quand s'il devait mourir vendredi et dimanche matin être déjà vivant, ça ne fait pas 3 jours, ça ne fait pas 3 nuits. Donc, pour que ça fasse 3 jours, 3 nuits, c'est qu'il est mort le mercredi soir. Maintenant, quelqu'un dira « Mais pourquoi on dit après le sabbat ?» Mais je veux continuer à faire des explications que si on veut continuer là-dessus. Mais sinon, on s'arrête sur Pâques en disant, voilà, donc les gens sont libres, mais quand même dans leur liberté, qu'ils tiennent compte du fait que Pâques, ce n'est pas le chocolat, Pâques, ce n'est pas le lapin, mais Pâques, c'est Jésus-Christ qui se donne comme un agneau et qui tiennent compte du fait aussi que la date internationale imposée n'est pas forcément la vraie date. Bon, ils sont libres de fêter quand même à cette date-là, mais qu'ils le sachent, que ce n'est pas la vraie date, parce que les choses correspondent avec la Pessa des Juifs. Oui.
Tu dis que Jésus est mort un mercredi, mais les évangiles nous disent quand même qu'il est mort la veille du sabbat, qu'il a été crucifié la veille du sabbat.
Oui, donc un sabbat, ce n'est pas seulement le samedi. Donc toute fête officielle en Israël était considérée comme un sabbat. Donc ce n'est pas forcément un samedi. Donc normalement, le mercredi, c'était la fête de pain sans levain. Donc c'était aussi un sabbat. Donc et d'ailleurs, dans Matthieu 28, là où, au verset 1er, là où vous lisez après le sabbat, ce n'est pas à l'original comme ça. Donc, à l'original, c'est au pluriel. Après les sabbats au pluriel. Donc là, on peut, dans Matthieu 28, quand c'est écrit après le sabbat, ce n'est pas au singulier dans l'original. Vous me direz, mais pourquoi ils ont mis au singulier? Parce que eux, comme nous, quand on entend le mot sabbat, on se dit samedi. Mais en réalité, dans une semaine, il peut tomber plusieurs sabbats. Donc, comme la fête de pain sans levain est... Donc, dans Matthieu 28, verset 1er, c'est écrit. C'est écrit après le sabbat. Mais il y a une note dans ma Bible, c'est écrit littéralement. Donc, la version originale dit à la fin des sabbats, au pluriel. Donc, c'est ça qui était... Et à l'original, les sabbats au pluriel. Donc il y avait un sabbat le jeudi, donc de la soirée du mercredi. Donc Jésus meurt mercredi, il y a le sabbat du jeudi. Et puis il y a le vendredi, ensuite il y a le sabbat du samedi. Et le troisième jour, donc le matin du dimanche, c'est là que les femmes vont pour mettre les aromates. Voilà. Comme on a déjà abordé le sujet, je vais donner encore un élément qui peut nous aider à comprendre dans Marc 16. Dans Marc 16, ça peut nous aider à comprendre le déroulement de tout. Dans Marc 16, c'est écrit Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Voilà. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Voilà. Si nous considérons que c'était Jésus est mort le vendredi, quand le sabbat finit, c'est le premier jour déjà. Donc ça ne. Alors qu'ici, on sépare l'achat des aromates et le premier jour. Donc, ce qu'on peut comprendre d'ici, en lisant ce qu'on vient de lire, ce qu'on peut comprendre, c'est quoi? C'est que quand le sabbat du jeudi finit, vendredi n'est plus un jour de sabbat. Les femmes font les courses pour faire les aromates. Le sabbat encore les surprend, le sabbat du samedi, elles se reposent. Et donc, le premier jour de la semaine, elles vont maintenant pour mettre les aromates. Donc, on peut considérer que la journée libre du vendredi les a aidées à faire les courses parce qu'on n'était pas, elles ne pouvaient pas le faire avant. Et donc, elles ont attendu maintenant le premier jour pour aller faire le travail. Oui?
Donc, la vraie date officielle, c'est quoi?
Donc, ça correspond à la fête des Juifs. Puisque Jésus est mort ce jour-là, comme l'agneau des Juifs. Voilà.
Mais pour nous, pour l'année, ça correspond à quoi?
Quelle date? Ah, mais il faut... si tu tapes sur Internet pour savoir la Pâque des Juifs, parce que ça change puisque c'est le calendrier lunaire. Les Juifs avaient un calendrier lunaire. C'est fixe pour eux. Ont plutôt un calendrier lunaire. C'est fixe pour eux puisqu'ils ont le calendrier lunaire. Mais ça bouge pour nous. Nous, on a pris un calendrier solaire. Donc, ça bouge. Voilà. Mais toujours est-il que ce n'est pas l'enchaînement vendredi, samedi, dimanche. C'est plutôt l'enchaînement mercredi soir, jeudi, vendredi et puis dimanche matin. C'est voilà. 3 jours, 3 nuits. Ça fait exactement 3 jours, 3 nuits. Parce que le Seigneur avait dit dans Matthieu 12 que je vous ferai, quand on lui a demandé de faire un miracle, il a dit, je ne ferai d'autre miracle que le miracle de Jonas. Je serai 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Donc le Seigneur ne peut pas se tromper. 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre. Longtemps, ça a été une difficulté pour les chrétiens, jusqu'à ce que Dieu éclaire certaines personnes, pour comprendre qu'en réalité, il est mort mercredi, oui, soir.
Je voudrais juste une petite explication sur Exode 12, verset 11, quand il parle du rein saint. Le mot saint en question, là, le mot saint en question, là, il concerne
l'Exode 12, qu'est-ce
Exode
qu'on dit?
Exode 12, verset 11, quand il dit vos saints, mais vos reins saints, en fait. Ah, c'est la ceinture.
Et c'est la ceinture, donc d'accord. Vous mettrez vos ceintures. D'accord. Voilà à peu près... tout ce qu'on peut dire sur Pâques. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Tu peux s'il te plaît expliquer Luc 22 verset 19. Il dit qu'il mangera plus avec eux, il va manger dans le royaume de Dieu. Et après, parce que moi j'avais l'impression on dirait qu'il remplaçait ça par ce que nous on appelle la Sainte Cène. Parce que c'est le sang, c'est le pain. J'ai pas compris. Il parlait de la Pâque au départ. Et après, Luc 22.
Luc 22.
19.
Luc 22, 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous.
Et un peu plus haut aussi, pardon. Verset 15.
Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Oui.
je comprends pas. Il parle de la Pâque, il mangera plus, mais il leur demande de faire, de se souvenir en mangeant le pain.
Oui.
J'ai comme l'impression qu'il remplaçait, il leur demande pas de fêter la Pâque, mais leur de continuer à se souvenir de la Pâque, mais leur demande de se souvenir en mangeant le pain, le sang.
Oui, en quelque sorte. Donc, en quelque sorte, quand on fait la Sainte Cène, on se souvient de ça. En quelque sorte, c'est ça. Mais on est libre de dire, moi, je réserve un jour spécial pour fêter la Pâque. Donc, comme on a lu dans Romains 14, celui qui veut faire de ça un jour spécial, il est libre. Chacun fait en fonction de sa conviction. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a la Sainte Cène que lorsqu'on va voir quelqu'un faire la Pâque, on va dire, célébrer la Pâque, on va dire, mais non, il ne faut pas. Voilà. Donc, chacun est libre de faire un jour, de choisir un jour, de faire de ce jour-là un jour spécial pour lui, pour Dieu. L'apôtre Paul dit, la condition, c'est que ça doit être fait pour Dieu. Maintenant, si c'est fait dans une logique de tradition, ce n'est pas bon. Si c'est fait dans une logique égoïste, personnelle, avec d'autres pensées, ce n'est pas bon. Ça doit être fait pour Dieu. Tout ce qu'on fait.
Parce que moi, j'avais l'impression qu'il remplaçait ça par ça même. Parce que dans Actes aussi, on dit qu'il persévérait dans la fraction de pain, tout ça là. Mais on ne dit pas qu'il fêtait la Pâque, quoi. J'avais comme l'impression que la Pâque était négligée. C'était maintenant ce que nous, on appelle la Sainte Cène qui était maintenant...
Attention, là, on nous montre, les Actes des Apôtres nous montrent la réalité de l'Église première. Mais il y avait aussi des difficultés dans l'Église première. Donc, il y avait déjà des judaïsants. Il y avait des gens qui continuent à célébrer les fêtes juives. Donc, c'est pourquoi il y avait des polémiques. Quand Paul écrit tout ça, c'est parce qu'il y a des polémiques. Quand Paul écrit l'Épître aux Hébreux, parce qu'il y a des polémiques au milieu des chrétiens, il y a des gens qui continuent quand même à faire ces fêtes-là. C'est pourquoi il dit, bon, c'est pas grave, faites tout, mais attention, faites tout pour le Seigneur. Voilà, donc il y a ces polémiques-là. Donc, ce que Luc nous décrit, c'est la vie normale des apôtres. Mais les apôtres n'étaient pas les seuls chrétiens. Il y avait d'autres chrétiens qui commençaient à remettre en sauce les pratiques juives. Et donc, c'est pourquoi Paul dit, on ne va pas polémiquer là-dessus. Celui qui veut distinguer les jours, qu'il le fasse, mais que chacun fasse tout pour le Seigneur. Celui qui ne fait pas, il le fait pour le Seigneur. Celui qui le fait, il le fait pour le Seigneur. Voilà, qu'on ne nous juge pas pour ces choses-là. Mais le plus important, c'est le contenu. Qu'est-ce que tu mets dans ce contenu-là du jour de Pâques? Qu'est-ce que tu mets dans ça? Est-ce que tu mets le chocolat, le lapin, ou tu mets Jésus lui-même? Voilà, donc c'est ça qui est important aux yeux du Seigneur. Voilà, nous allons lire aussi Luc 24, 21. Ou aussi, le frère dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc même les apôtres témoignent qu'il y a eu trois jours qui sont passés. Oui, oui.
Pasteur, juste pour savoir, la fête de Pâques qu'on célèbre ici, enfin, en tant que chrétien et tout, ça correspond à quelle des fêtes chez les juifs? Juste le nom.
Pâques?
Ils appellent Pâques. En juif, c'est Pâques.
Ça vient des juifs, donc tu es venu en retard.
Voilà. Non, pas ça en fait, parce que là, j'ai devant moi la liste des fêtes, comme tu as dit, après Pessa ou quoi, Pessa.
Pessa, c'est Pâques.
Voilà, en fait, ah ok, c'est Pessa qui est Pâques.
Oui, c'est Pessa okay. Qui est Pâques.
Ça marche, merci.
Voilà. Donc, mais on l'a dit, les dates ne correspondent toujours pas. Donc, parce que les dates que nous, on a, on a d'une manière internationale, sont des dates, voilà. Oui.
Je vois rien qui nous permet de dire que il y avait un sabbat le jeudi, tu as dit.
Le mercredi soir.
Parce que dans Exode 20, il est dit que la fête des pains sans levain dure 7 jours, qu'il y a un sabbat au début et un sabbat à la fin.
Oui, donc le sabbat de la fin, c'est le mercredi.
Et il y aurait un sabbat 2 jours après.
Oui, le sabbat du samedi. Donc, chaque semaine, il y avait toujours un sabbat. C'est le samedi. Maintenant, il pouvait coïncider un autre sabbat pour une fête spéciale. Que ce soit les tabernacles, toutes les fêtes qu'on connaît, ça ne tombait pas le samedi, ces fêtes-là. Ça pouvait tomber un mardi, Ça pouvait tomber un mercredi, mais c'était considéré comme un sabbat. Voilà. Ça s'appelait toujours sabbat, comme c'était une fête de l'Éternel. Et donc, c'est ça qui cadre avec la parole du Seigneur, 3 jours, 3 nuits. Tout en sachant, bien aimé, nous ne voulons pas tout régler. Hein. Les problèmes liés à l'histoire sont les problèmes du Seigneur, parce qu'on ne peut pas nous faire machine arrière, amener une vidéo de film de l'histoire. Mais on donne ces éléments-là pour aider certaines personnes qui seraient dérangées par certaines difficultés bibliques. Bon, on ne dit pas que ces éléments règlent tout, mais ça donne quand même une lumière et par rapport à ces vérités bibliques. Le Seigneur ne se trompe pas. Il a vraiment fait 3 jours, 3 nuits. Et il y a un frère qui en a fait carrément sa thèse. Il en a fait un livre carrément intitulé « 3 jours, 3 nuits ». C'était un scientifique, un géographe français en plus. Donc je ne sais pas où j'ai égaré le livre. Mais il a fait ces recherches-là historiques et il a déterminé la date exacte de tout ça et avec des éléments scientifiques. Voilà, avec des éléments scientifiques, avec tout ce qui est astronomique. Il a fait ça, il a démontré. Et à partir de là même, il a presque démontré la date de la naissance du Seigneur. Mais j'ai oublié exactement c'était quand. Voilà.
Dans Luc 23, verset 54, enfin plutôt 53, il dit « Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé, dans le roc où personne n'avait été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. »
Oui.
Donc ça confirme ce que tu dis.
Voilà, c'est le sabbat du mercredi.
Du mercredi.
Voilà. Okay. Donc c'était le jour de la préparation. Et c'est vraiment Marc 16 qui nous aide parce qu'il est dit que les femmes... quand le sabbat est passé, elles sont parties acheter les aromates et la phrase s'arrête, point. Le premier jour de la semaine, on voit bien que c'était une phase. Donc une phase, et elles ont attendu le premier jour de la semaine. Donc il y a tous ces passages-là qui contribuent à montrer qu'il y a eu quand même du temps avant d'aller au sépulcre. Et ça confirme Matthieu 12 où Jésus dit... Parce que pendant longtemps, ça a été une épine dans les pieds des chrétiens, cette affaire-là de 3 jours. Jésus qui dit « je vais faire 3 jours, 3 nuits ». Mais quand on voit les dates, en plus, c'est là qu'on voit que le catholicisme, c'est diabolique. Parce que c'est lui qui a fixé ces dates-là de vendredi soir. Donc c'est vraiment diabolique. Et pendant longtemps, les chrétiens ont été perturbés par cette affaire. Donc vendredi soir. Mais quand on arrive à dimanche, ça ne fait pas 3 jours, 3 nuits. Et donc, mais ça a toujours été fait comme ça. Jusqu'à ce que des chrétiens engagés fassent vraiment des recherches poussées, relisent la Bible, fassent des recherches donc, astronomiques pour démontrer, et selon les coutumes juives, selon les dates juives, pour démontrer que cette semaine-là, il y avait effectivement une autre fête. C'était le sabbat de fête de pain sans levain. Et ça faisait que ça faisait le complet 3 jours, 3 nuits. Donc maintenant, celui qui veut fêter ça n'a pas à se caler sur les dates officielles parce que ce ne sont pas Jésus lui-même. Il nous en parle dans la parole. Il l'a fait le jour de la Pâque des Juifs. Donc celui qui veut une date, c'est ce jour-là qu'il faut suivre. Oui, mais maintenant, on peut même décider que toi, le 10 décembre, c'est à Pâques, on est libre. Donc celui qui veut, voilà, on est libre. Mais que ça soit fait pour le Seigneur, oui.
Oui, en fait, pasteur, ce n'est pas encore bien clair pour moi, parce que si on compte du mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, ça voudrait dire que Jésus serait ressuscité le samedi matin, alors non?
Voilà, il est ressuscité le dimanche matin.
Ben non.
Ah, le samedi matin, oui. Plutôt, voilà.
Le samedi matin. Voilà. Il sera ressuscité le samedi matin.
Non, le samedi soir.
Parce qu'il y a 3 jours entiers. Alors jeudi oui, entier.
Samedi soir.
Jeudi entier, vendredi entier et samedi entier.
Samedi 18h. Ah, parce que le jour des Juifs, c'était. Le Juif compte le jour de 18h à 18h.
Oui.
Il ne compte pas comme nous. Donc de 18h, mercredi à 18h, ça fait un jour.
Oui.
Jeudi. Jeudi 18h, vendredi 18h, un autre jour.
D'accord.
Et vendredi 18h, samedi 18h, troisième jour.
D'accord.
et trois nuits en même temps. Voilà.
Donc, mais alors, il est ressuscité
samedi soir.
D'accord, il est ressuscité, mais alors les femmes l'ont vu que le lendemain. Voilà, mais il est ressuscité la veille.
Voilà.
Ah, voilà.
Non, la veille pour nous, mais c'est le même jour pour eux, parce que le jour commence de samedi soir à...
Oui, d'accord. Ah, voilà. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Mmh.
Ah voilà, on a nos jours, on a nos façons, mais les juifs comptent de 18h à 18h. Voilà. Oui.
Et la Pâque, en réalité, c'est le jour où ce qu'il a été crucifié, le mercredi.
Selon, voilà, la Bible. Donc lui, il parle, donc lui, il sait, voilà.
Parce que mais, nous, on appelle Pâque enseignement catholique.
Non, la Pâque
c'est
juive.
Le Pâque. Ouais, mais les catholiques disent que la Pâque, c'est le dimanche du jour de la résurrection.
Alors, non, parce que Jésus... Quand il parle de la Pâque, il parle de la Pâque de l'Ancien Testament. Mm-hmm. Et donc, maintenant, mais dans son discours et dans le discours de Jean-Baptiste, on se dit que c'est lui-même la Pâque. Mm-hmm. Puisque, après, Paul confirme ça, c'est Jésus lui-même en se sacrifiant qui est la Pâque. Donc, c'est pas comme on fait ça le dimanche. Mm-hmm. C'est pas ça. C'est ça. Voilà. C'est le jour où il est crucifié. C'est pas le jour où il ressuscite. Voilà. Ça aussi, c'est un détail important à noter. Maintenant, les chrétiens ont fait du dimanche un jour spécial parce que c'est le jour de la résurrection. Donc c'est là où la victoire de la Pâque devient claire. Donc ce qu'il a accompli à la croix éclaire le dimanche. Donc on l'a vu, il est ressuscité, il est vivant. C'est pourquoi les chrétiens qui ont commencé le christianisme on fait du dimanche un jour spécial parce que pour eux, c'était le jour, parce qu'on s'est moqué de leur Seigneur à la croix. On l'a injurié. On a dit qu'il avait perdu la bataille. Mais le Seigneur est ressuscité le troisième jour. C'est, vous savez, même dans la prédication de Pierre, il dit, celui que vous avez crucifié, eh bien, le Seigneur l'a ressuscité avec gloire. Donc, pour les premiers chrétiens, leur fierté, leur gloire, c'était la résurrection du Seigneur. Parce que quand il était à la croix, les gens ont parlé, les gens ont critiqué, les gens sont moqués, mais ils ne comprenaient pas que c'était pour leur péché. Mais la victoire a été manifestée clairement le jour de la résurrection. Donc c'est pourquoi eux, comme on l'a dit à plusieurs reprises, ils ne se disaient pas bonjour, mais l'un disait à l'autre, le Seigneur est ressuscité, et l'autre répondait, il est vraiment ressuscité. C'était leur bonjour, parce que c'était dit, voilà, notre Seigneur est vivant. Le royaume nous appartient, la gloire de Dieu est à nous, et c'était ça la fierté des chrétiens. Donc eux, ils se réunissaient ainsi, donc on a une trace de leur réunion, c'est dans Actes des Apôtres au chapitre 20. Donc ils se réunissent le premier jour. Donc Actes des Apôtres au chapitre 20 nous donne une trace de ça. Mais je spécifie qu'ils n'en font pas, c'est pas une, comme le frère Paul nous le dit dans Romains 14 et Colossiens 2, ce n'est pas une règle. Donc si une église décide qu'ils vont se réunir le vendredi et non pas le dimanche, les gens sont libres. Voilà. Donc, mais historiquement, on a une trace de, dans Actes des Apôtres chapitre 20, c'est écrit au verset 6. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe. Et au bout de 5 jours, nous le rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Voilà, donc le premier jour de la semaine, ils étaient en réunion officielle pour prendre la Sainte-Cène, donc pour rompre le pain. Donc c'est là que c'est la trace qu'on a et il est écrit... Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc on voit bien que toute la journée du premier jour a été consacrée aux activités spirituelles, soit rompre le pain, soit la prédication, les échanges. Donc c'est la trace qu'on a bibliquement qui montre que les premiers chrétiens ont plutôt choisi le dimanche pour se réunir. Maintenant, comme nous le savons, nous, chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous n'avons pas de jour spécial pour dire c'est ce jour-là seulement que Dieu nous visite. Non, c'est tous les jours. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, pour des raisons terrestres, donc le dimanche a été pris ainsi. Mais cependant, c'est tous les jours-là. Aujourd'hui, on est mardi, on n'est pas dimanche. Pourtant, on a prié, on a chanté, on n'est pas en train de partager la parole comme le dimanche. Donc, ce n'est pas une question de jour. Mais après, c'est vrai que dans l'esprit du repos hebdomadaire que Dieu a institué depuis la Genèse, hein, voilà, le dimanche peut être ce genre de repos hebdomadaire pour nous, les chrétiens. Voilà. Donc, on a parlé donc de la Pâque, de sorte que lorsque quelqu'un nous pose des questions, que nous ayons quand même des éléments à donner. Voilà. Nous revenons sur notre exploration de la Bible. Nous prenons Genèse, chapitre 41. Donc, on s'était arrêté au verset 23, un verset très dur. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Donc, on avait bien expliqué que même si on peut être correct avec Dieu, on peut être un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu, il peut arriver des temps où on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Ou bien, comme si Dieu a fait une erreur. Parce que l'oubli est tellement grave et flagrant. C'est comme si, quelqu'un te dit, le jeudi, je te donne 1 million. Avec assurance, c'est même la personne, c'est le fils du roi. Il te dit, le jeudi, je te donne 1 million. Et le jeudi, il oublie. Donc là, quand quelque chose comme ça t'arrive, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est le fils du roi, il m'a promis 1 million. Comment il peut oublier? C'est ce qui s'est passé là. Donc, Joseph était sûr que l'exploit de donner l'explication du songe allait tellement marquer le bénéficiaire qu'il allait parler de lui au Pharaon. Mais c'est écrit, le monsieur l'a oublié. C'est permis par Dieu. Il y a aussi un peu de la nature humaine. Mais pour nous, en nous mettant à la place de Joseph, nous allons considérer que c'est permis par Dieu afin que Joseph soit un serviteur purifié, éprouvé, et qu'il aille jusqu'au bout de son service plus tard. Le Seigneur regarde toujours l'avenir. Donc, il nous fait passer par ces moments difficiles, parce que c'est très difficile pour quelqu'un de correct, pour quelqu'un qui est en prison injustement, mais qui après manifeste la gloire de Dieu, il a l'impression que cette gloire n'apporte pas de résultats. C'est vraiment très difficile à accepter, mais c'est comme ça que Dieu nous prépare pour plus tard. Parce que qu'est-ce qui est plus dangereux? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? C'est la gloire de Dieu. Entre les souffrances et la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui est la plus dangereuse pour faire chuter quelqu'un. Les souffrances encore, ça peut réveiller. Mais la gloire de Dieu, si on n'est pas brisé, éprouvé, ça peut nous faire chuter beaucoup plus. C'est pourquoi c'est écrit quoi? Vaut mieux être dans une maison de deuil. Pourquoi? Parce que dans la maison de deuil, c'est la tristesse, c'est la difficulté. Ça peut donner la colère, mais la faiblesse de l'homme est tellement évidente que ça réveille souvent. Alors que dans une maison de joie, on est distrait. On ne voit plus la réalité. On est dans le superflu, on est dans l'artificiel, on est en l'air. Donc, et la Bible dit, vaut mieux une maison de deuil qu'une maison de joie. Parce que dans la maison de deuil, tu réfléchis. Et donc, c'est la même chose. Quand on souffre pour Dieu, on est plus debout que quand on commence à vivre la gloire de Dieu. Parce que vivre la gloire de Dieu, rapidement, ça nous amène à croire que c'est nous qui sommes glorieux. Rapidement. Et notre frère Paul en parle dans Hébreux 12. Il dit au verset 1er, le péché qui nous enveloppe facilement. Et ça, c'est mon avis. Je pense qu'il parlait de l'orgueil, là. L'orgueil est le péché qui vient sans te demander ta permission. il vient. Il n'a pas demandé la permission. Il y a certains péchés qui ont quand même des points d'ancrage. L'orgueil, il vient. On peut voir quelqu'un, comme on dit, on peut voir quelqu'un SDF, mais orgueilleux. Il n'a rien du tout. Comme disait le pasteur Davis, quand il travaillait dans une structure avec ce genre de personnes, la personne est SDF, elle-même elle est sale. Elle vient, on lui sert le café, il dit non, ce n'est pas chaud, ou bien il y a trop ceci, cela, je ne bois pas. Donc on voit que donc, l'orgueil est vraiment puissant. Il environne, donc il attrape facilement. Et c'est ça, la gloire de Dieu est très, très, très dangereuse. C'est pourquoi quand Dieu, il te prépare à faire des exploits avec lui, forcément, il doit te briser, il doit t'éprouver, il doit te piétiner pour faire en sorte que le jour où sa gloire tombera sur toi, tu restes debout. Tu ne tombes pas dans la faillite. Parce que Dieu aime quand même son serviteur. Il ne veut pas utiliser un serviteur et voir après ses serviteurs en enfer. Donc il veut le préparer à supporter la gloire à venir. Vous connaissez bien, mais lisez toutes les histoires. La Bible, c'est une répétition. D'ailleurs, même dans la Bible, c'est écrit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Moïse a été humilié. Dans sa force physique, un seul coup de Moïse a tué un homme. Donc il avait la force physique, il avait l'intelligence humaine, c'était un prince de Pharaon. Il avait humainement ce qu'il fallait, mais il n'avait pas la capacité de libérer son peuple. Il a dû fuir 40 ans d'attente et pour revenir juste avec le bâton et la parole. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et donc, devant une telle puissance, où tu mets le bâton dans un fleuve, le fleuve devient du sang, pour rester un humain normal, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Une puissance qui te fait entrer chez Pharaon pour lui dire, tu laisses partir mon peuple. Il fait le têtu, tu dis, bon, je vais te punir. Tu parles comme ça au président des États-Unis. Toi, tu vas punir. Mais pour avoir cette puissance-là et tenir, rester humain normal, il faut avoir été préparé. Voilà. C'est ainsi que Dieu nous prépare. Donc, tous ceux qui souffrent devraient applaudir Dieu. Parce que Dieu les prépare à une grande gloire. Mais nous, on ne comprend pas. On murmure et on passe à côté. Dieu te prépare. Dieu va briser. Afin, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, que ta foi repose sur lui, Dieu. C'est écrit dans Deutéronome 8. Je vous ai fait passer 40 ans dans le désert afin de vous apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Donc, il va t'épuiser. Il leur dit, mais vous ne remarquez pas que vos chaussures n'étaient pas usées malgré 40 ans dans le désert avec les mêmes chaussures. Vos chaussures n'étaient pas usées. Parce que j'ai la capacité de garder les chaussures propres pendant 40 ans. Donc, afin que votre foi ne repose pas sur l'intelligence, mais ça repose sur moi. Et donc, Dieu va nous passer par des temps d'épreuves que l'intelligence n'arrive pas à comprendre. On se dit, comme la sœur avait posé la question mardi passé, elle dit, mais pourquoi attendre encore 2 ans, laisser encore Joseph 2 ans en prison, alors que la même explication qu'il venait de donner, c'est celle qu'il va donner à Pharaon encore. Il ne pouvait pas la donner une fois pour toutes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est que l'intelligence ne peut pas comprendre les épreuves de Dieu. C'est fait en sorte que nous puissions reposer que sur Dieu, d'une manière bête. Voilà. Là, ta foi est véritable. Parce que tu fais confiance à Dieu aveuglement. C'est ça la véritable foi. Donc nous arrivons au verset 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et eut un second songe. Voici sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Donc on voit que Joseph est gardé simple par Dieu. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. » Et voici, cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe sept épis, pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige, et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon, est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. » Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Voilà la gloire de Dieu. Voilà. Quand ça vient, ça dépasse l'imagination et Joseph donne l'explication du songe. Mais la réponse de Joseph, quand on lui dit au verset 15, « Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Ça nous rappelle la réponse de qui d'autre ? De Daniel. Donc quand il était face à Nebuchadnezzar, pour un problème de songe, il a aussi dit la même phrase, « C'est Dieu qui est dans les cieux, c'est lui qui donne les explications à ça. » Donc, premier élément, nous nous rendons compte que Dieu peut donner des songes à quelqu'un qui n'est pas dans la droiture, dans la vraie adoration, dans quelqu'un qui n'est pas, aujourd'hui on va parler de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Dieu peut donner des songes. Donc ça doit nous rendre conscients du fait que même si l'évangile n'a pas encore atteint tout le monde, Dieu peut parler même à des gens qui n'ont pas encore entendu l'évangile, par des songes, leur donner des instructions. Vous connaissez l'histoire que j'aime à raconter, ce peuple éthiopien qui, 50 ans avant, un de leurs chefs avait rêvé. Un ange, lui il a dit un personnage, mais ça devait être un ange, lui disait que il va venir un temps où ils verront un signe dans le ciel, des signes dans le ciel, et puis il y a un homme qui viendra sur un cheval qui a des ailes et qui ne mange pas de l'herbe. Et bien cet homme-là vous apportera le livre de la vérité. Donc, et 50 ans après, il y a un missionnaire qui est venu, mais avant qu'il vienne en hélicoptère, il y a les avions de chasse éthiopiens qui faisaient des manœuvres, je crois que c'était des mirages, qui faisait des manœuvres, et il y avait, vous savez, quand les avions supersoniques sont dans le ciel, ils laissent des traînées, voilà. Et ces gens-là qui souffraient d'une grande famine, et leur Dieu n'arrivait pas à les satisfaire, à régler le problème de famine, quand ils ont vu ces traînées, ils ont dit, mais on voit les signes dans le ciel. Où est le cheval avec l'homme ? Ensuite, quelques temps après, il voit l'hélicoptère venir. Il dit, mais voilà le cheval qui a des ailes et qui ne mange pas de l'herbe. Donc, quand l'hélicoptère descend, le monsieur, lui, il leur avait apporté de la nourriture parce que comme la tribu était en famine, il s'était dit, pour les amadouer, je vais amener beaucoup de nourriture pour les aider d'abord. Ensuite, et lui, il amène la nourriture, mais les gens lui demandent, où est le livre ? Vous voyez comment Dieu est tout-puissant. Certains qui pensent qu'il faut qu'on soit riche pour convaincre les gens, c'est faux. Il faut qu'on ait des biens, il faut qu'on soit prospère. C'est comme ça qu'on va convaincre les gens que Dieu est avec nous. Non, parce que Dieu lui-même prépare le terrain. Donc tu peux servir Dieu en étant pauvre, aux yeux des humains, je veux dire. Voilà, parce que c'est Dieu qui prépare les cœurs. Ce n'est pas forcément un exploit que tu vas faire qui va convaincre les gens. Cet homme, lui, il amène la nourriture, mais les gens lui demandent le livre. Où est le livre ? Parce que tu es venu avec un cheval qui a des ailes et qui ne mange pas de l'herbe. Donc, et le monsieur dit, mais j'ai un livre, effectivement, j'ai des livres. Il a sorti les Bibles qu'il avait amenées et l'évangile s'est répandu facilement dans cette contrée. Donc Dieu parle. Donc même si les gens ne sont pas de lui, il lui arrive, on ne sait pas comment et pourquoi, il lui arrive de leur parler. Il a parlé à Pharaon et ça a facilité l'action de Joseph parce que c'est Joseph qui a donné l'explication. Ce qui fait que Vous savez, comme on fait mardi info, donc c'est comme si on analyse l'actualité. Dieu parle à travers les événements, mais c'est à nous les chrétiens de donner l'explication aux événements. Donc c'est là, même chose là, Dieu parle à travers un songe, mais c'est à ses serviteurs, à ses gens, à lui, de donner l'explication aux autres, parce que les autres ne voient pas, ils sont aveuglés par le diable. Et donc c'est ce qui se passe là. Le monsieur a eu bien le songe, mais il n'a pas compris, oui.
Je voulais savoir, donc si un païen vient nous raconter un songe, donc il faut prendre en considération.
Ça dépend, donc on se laisse conduire par le Saint-Esprit.
Parce que je pose cette question, on a déjà parlé une fois ici, là, que quand quelqu'un n'est pas encore converti, quand il fait des rêves, des songes, en général, ça vient du diable.
Non, quand c'est tout le temps. Donc il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont tout le temps des songes, qui disent, ils se réalisent, des choses comme ça. Quand c'est tout le temps, ce n'est pas de Dieu. Mais ça peut arriver, ponctuellement. Voilà, parce qu'on ne peut pas considérer que Dieu fasse de quelqu'un qui n'est pas avec lui son serviteur. C'est quand même pas normal. Donc, pour lui montrer tout le temps des songes, des choses à faire, alors que la personne est carrément à l'opposé de Dieu. Non. Mais ça peut arriver ponctuellement. On a plusieurs exemples dans la Bible. Il y a Gédéon. Il arrive dans le camp ennemi en espion. Il entend un soldat ennemi partager un songe qu'il a eu la nuit à un autre. Il dit, mais la nuit, j'ai vu une grosse galette rouler et renverser le camp de commandement, notre tente de commandement. Ah, l'autre lui dit, ah là, c'est certainement Dieu qui donne la victoire à Gédéon. Donc Gédéon, lui, il entend, donc c'est extraordinaire. L'autre donnait l'explication du songe et il comprend le message de Dieu. Dieu lui donne la victoire. Donc Dieu peut même nous parler à travers un songe qu'il a montré à quelqu'un d'autre qui n'est pas de Dieu. Mais le but, c'était que toi, tu entendes que là, Dieu te parle. Donc, il faut qu'on comprenne comment Dieu fonctionne. Et donc là, Joseph donne l'explication que les autres n'ont pas pu donner. Les autres n'ont pas pu donner l'explication. Et finalement, le pharaon décide d'élever Joseph à une position comme Joseph avait vécu avec Potiphar aussi. Pareil. Donc finalement, à chaque fois, s'accomplit le songe que Joseph avait eu quand il était enfant, quand il était jeune. À chaque fois, on lui donne une position de supériorité vis-à-vis de ses pères. À chaque fois. Et il y a toujours un élément pour le calmer. Il y a un autre chef au-dessus qui joue le rôle de Dieu. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, malgré le fait qu'à chaque fois il est élevé, il y a toujours un supérieur au-dessus pour dire, attention, il y a quelqu'un toujours au-dessus de toi. C'est Dieu qui est au-dessus de toi. Et Pharaon symbolise la suprématie de Dieu sur Joseph. Potiphar symbolisait la suprématie de Dieu sur Joseph. Et comme ça nous a été dit le mardi passé par le pasteur, c'est que, à chaque fois, Joseph remporte la victoire sur Adam. Donc Adam est tombé parce qu'il a voulu être l'égal de Dieu, mais Joseph reste simple. Potiphar lui donne la suprématie, il ne titille pas Potiphar, il le laisse chef. Et là encore, Pharaon va lui donner la suprématie. Lui, il ne va pas chercher à renverser Pharaon, au contraire, il va le servir fidèlement. Donc il résiste à la tentation d'être l'égal de Dieu malgré des élévations extraordinaires. Et puis, on continue au verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Panéach et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Mais c'est extraordinaire le lien entre Joseph et Jésus. Donc cette phrase-là nous rappelle le monsieur encore une fois de plus. Voilà, à l'âge de 30 ans, Jésus, c'est écrit dans Luc, Jésus a commencé le ministère. Là, Ça nous est précisé, on ne nous parle pas quand on parle des autres serviteurs dans l'Ancien Testament, on dit pas à tel âge, à tel âge. Moïse était 40 ans, mais Joseph est vraiment le type le plus proche du Seigneur. 30 ans. Voilà, donc c'est à l'âge de 30 ans et c'est précisé. Et de même, pour Jésus, c'est précisé, à environ 30 ans, il commence. Il est vraiment le type de Christ le plus fort. Joseph étant âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte et il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions de champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Donc Manassé qui dérive d'un mot qui signifie oublier. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, qui signifie être fructueux, fécond, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph. » Et faites ce qu'il vous dira. Une fois de plus, ça nous rappelle quoi? Les noces de Cana. Jean, au chapitre 2, il manque du vin. Et Marie dit, allez voir le monsieur là et faites ce qu'il vous dira. Voilà. Et c'est vraiment le type de Christ. Voilà. Et 56, la famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Voilà. Donc on voit une fois de plus aussi quelque chose qui s'accomplit, c'est que nous sommes le sel de la terre. Là où un enfant de Dieu se trouve, la bénédiction aussi va venir sur le lieu, même si les gens ne se tournent pas forcément vers Dieu. Mais l'enfant de Dieu apporte sur lui la bénédiction de l'Éternel. Et donc là où il est, s'il demeure vraiment fidèle, Dieu va bénir son entourage, Dieu va bénir sa ville, Dieu va bénir sa famille. Le Seigneur agit ainsi. Donc on voit que Joseph, sa présence en Égypte est devenue une bénédiction pour toute l'Égypte. Quand même aussi il était présent chez Potiphar, pareil, les affaires de Potiphar ont prospéré parce que Dieu était avec Joseph et Joseph lui était aussi fidèle. On voit aussi que Joseph épouse une étrangère, comme le Seigneur Jésus a fini par nous adopter comme épouse, nous les non-juifs. Il a fait de nous l'Église, son épouse. Donc c'est le même cheminement que Joseph. Et là, nous nous arrêtons là parce que l'épisode qui vient, c'est long et fort aussi. Nous nous arrêtons sur la fidélité de Dieu qui un jour se manifeste d'une manière éclatante. Voilà. On peut connaître des années de misère, mais si nous restons fidèles au Seigneur, sa gloire un jour se manifestera d'une manière éclatante. Un jour, et Joseph a connu beaucoup, beaucoup de malheurs. Beaucoup de malheurs. Rejeté à 17 ans, vendu, calomnié par la femme de Potiphar, emprisonné, oublié malgré les bons services rendus. Donc il a connu malheur sur malheur, Mais un jour, Dieu va montrer que c'est lui qui est avec nous. Et on oublie après. Vous savez, quand on chante le chant, « And the toils of the world will seem nothing. » Les difficultés du passé vont sembler rien du tout quand la gloire de Dieu sera présente. Tu ne te souviendras plus que tu as tant souffert, ça ne sera plus quelque chose de difficile pour toi parce que la gloire de Dieu va te faire oublier. C'est pourquoi il a donné le nom à son fils, le nom de Manassé. La gloire de Dieu va te montrer que tu n'as pas souffert pour rien. Ton Dieu est fidèle. Un jour, le Seigneur se manifestera. Donc, c'est un appel vraiment à être patient pour ceux qui s'attendent à sa gloire. Soyons patients. Continuons. Oui.
En fait, je me disais, c'est pas écrit, mais comme tu viens de dire, quand on a vécu des souffrances, et après, voilà, comme Joseph, il a oublié même ses souffrances, mais je comprenais pas pourquoi il y a des gens, quand ils ont vécu des souffrances, et quand Dieu les élève, ils deviennent, et ils veulent se venger, quoi, contre les gens qui les ont, leur ont fait du mal. Par exemple, quelqu'un qui devient président, je sais pas qui, va vouloir, s'attaquer, éliminer tous les gens qui ont été un blocage.
Mais il n'est pas conscient que c'est Dieu qui l'a élevé. Il pense que c'est lui-même. Il pense qu'il est arrivé par lui-même.
Là, on c'est pas écrit, on voit pas où Joseph a s'est vengé contre la femme et contre son mari. Ils l'ont mis en prison, pour rien.
Non, voilà. D'ailleurs, on va le voir par rapport à ses frères, la réponse qu'il va donner plus tard. C'est Dieu qui a permis afin de nous sauver, nous tous. Voilà. Donc, il va donner une explication belle à ses souffrances. Donc, il va prendre ça positivement en considérant que les souffrances ont été permises par Dieu afin que lui reste humble et surtout que la gloire de Dieu se manifeste parce que nous sous-estimons souvent la faiblesse de l'homme. Voilà. Dieu, alors, il nous prépare, il nous brise, même alors que nous, on trouve que c'est sans raison parce qu'on se croit déjà humble, mais Dieu, lui, il connaît. Voilà. Et il va permettre le brisement, le travail. Tu vas dire, mais j'ai déjà tout compris, il veut que je comprenne encore quoi. Il veut que tu comprennes rien, juste que tu sois soumis, c'est tout. Voilà. Il veut te travailler jusqu'à ce que tu sois soumis, comme un serviteur. Voilà. Et parfois, à force de vouloir comprendre, on est toujours dans la rébellion vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on veut qu'il se justifie à chaque fois. À un moment donné, on se dit, bon, je ne comprends rien, mais j'accepte avec joie. C'est tout. Et on dit, ah, mais ça, c'est le défaitisme. Ce n'est pas le défaitisme, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Voilà, un point, c'est tout. Je comprendrai quand il voudrait que je comprenne. Parce qu'à force de vouloir chercher, ça veut dire que Dieu, justifie-toi, je n'accepte pas. Justifie-toi. Ah, non. Donc, finalement, tu n'arrives pas à l'état qu'il attend de toi. L'état de serpillère, voilà, l'état de torchon, tu n'atteins pas cet état-là. Lui, il veut que tu atteignes cet état-là. Voilà. On te gifle, tu souris, quoi. Voilà. Donc, et là, au ciel, les anges acclament. Les anges acclament. Mais là, au ciel, les anges acclament. On l'a giflé, il a souri. Voilà. C'est cela. Et quand on sort de tout ça, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Donc, que Joseph soit notre exemple au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous aider à imiter ton serviteur Joseph, qui est, si aujourd'hui nous trouvons des excuses pour dire que toi tu étais fils de Dieu, mais nous avons Joseph qui est issu d'un homme et d'une femme et qui s'est comporté comme toi, Seigneur, avant même que tu sois là. Nous voyons par là la puissance du Saint-Esprit qui peut travailler un humain et le rendre agréable à toi si cet humain consent à collaborer, consent à laisser l'Esprit faire. Seigneur, nous prions que tu nous aides à consentir à te laisser faire. Nous voulons te féliciter, te dire merci pour tous nos malheurs. Nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons... Ce qui nous donne l'impression que nous avons perdu 10 années à faire telle chose. Nous avons perdu 14 années à faire telle autre chose. Nous sommes nés avec un défaut au bras. Nous sommes nés avec tel défaut physique ou voilà, ou né dans une mauvaise famille, pour toutes ces choses-là qui semblent mauvaises, nous venons aujourd'hui te dire merci parce que nous savons que tout ça est une préparation qui vient de toi pour manifester ta gloire et ta puissance. Comme Joseph a accepté cette préparation, nous voulons aussi accepter la nôtre afin que ta gloire se manifeste. Merci pour ce pays que tu nous as donné. Merci Seigneur pour cette ville. Même s'il pleut beaucoup, Seigneur, nous estimons que c'est pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te bénissons. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà, je vais donner un témoignage toujours dans ce même sens. On était en Suisse et on ne savait pas ce qui nous attendait là-bas. Là où on allait dormir, c'était un chalet dans la montagne, bien aimé. On a flippé pour quand les voitures montaient. On a eu la peur de notre vie. Il y a la sœur Cathy qui ne ressentait plus ses jambes. Elle est là. Ah, elle est là. Ses jambes étaient perdues dans la voiture. Et on arrive là. Le lendemain, le concert est à 20h. Vers 16h, la neige commence à tomber. Vers 15h, la neige commence à tomber en abondance. Nous, on était dans la maison. On voyait du blanc à l'extérieur. Il y a une sœur qui vient me dire, « Pasteur, est-ce que ça va le faire, là ?» Parce qu'on se disait déjà, c'est haut. On a eu peur quand il n'y avait pas la neige. Maintenant qu'il y a le manque de visibilité, peut-être que la neige va aussi faire glisser la voiture. Donc, la sœur a dit, « Pasteur, mais est-ce que ça va le faire ?» Moi, j'ai dit, « Mais on n'a pas le choix. Le concert est à 20h, on doit partir. » Mais bien aimé, là, quelqu'un m'a réclamé la prière avant qu'on parte. Pourtant, on avait déjà... Donc, en priant, j'ai dit, Seigneur, nous te remercions pour la neige parce que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais bien aimé, dès qu'on est sorti, il n'y a plus de neige. On s'est dit, mais c'est parti où? La route était claire, tout était clair. Mais quand on était à l'intérieur, on avait l'impression que si on sort, on ne verra plus rien avec nos yeux. Mais on sort, il n'y a plus rien. Donc on est descendu tranquillement. D'ailleurs, la neige qui était tombée nous a servi pour bloquer les routes, voilà, montrer la route, quoi. Donc, non, mais Dieu est fidèle. Donc il faut le remercier pour tout. Gloire à son nom, au nom de Jésus. Amen.